à tourner dans vos Bibles et à trouver avec moi en Éphésiens chapitre 5 le passage où Dieu nous invite, et c'est un commandement, à être remplis du Saint-Esprit. La Bible dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendant ou rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Prions. Notre Père céleste, merci de ta présence. Merci de travailler dans nos cœurs par la vérité de ta parole, afin de nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Nous le désirons, Seigneur. Alors merci de changer nos cœurs, merci de transformer nos vies, afin que nous puissions être conformes à ce que tu nous demandes d'être. Merci pour ton esprit qui nous habite, qui nous a scellés, nous qui t'avons reçu. Merci pour ton esprit qui habite en nous et qui nous veut nous remplir, nous donner sa plénitude. Nous te rendons grâce pour sa puissance. Nous te rendons grâce pour sa vie en nous. Et nous t'apportons notre louange ce matin, notre reconnaissance en toutes choses, Seigneur Jésus. Merci de la grâce qui est en toi. Et merci du fait qu'on peut toujours s'humilier devant toi, jour après jour, pour te faire place et te glorifier en toutes choses. Merci, Seigneur. Amen. Alors, on est en train de regarder à nouveau ce thème de Éphésiens. Et on a commencé il y a déjà quelque temps l'exposition de l'Épître aux Éphésiens. Et on est toujours dans la marche. À partir du chapitre 4, le thème, c'est la marche du croyant. Tu veux le tourner, Christina? Merci. La marche du croyant. Et on a vu ensemble rapidement qu'à partir du chapitre 4, Paul nous exhorte à marcher d'une façon digne. Ensuite, au verset 7 jusqu'au verset 16, à marcher d'une façon unie dans l'Église. Verset 17 jusqu'au verset 19, de ne pas marcher comme les païens. Verset 20, on va dire jusqu'au verset 32, de marcher en nouveauté de vie. Et à partir du chapitre 5, Dieu nous invite à marcher dans l'amour, à marcher dans la lumière. Et au verset 15 jusqu'au verset 17, on a vu marcher dans la sagesse. Et là, le Seigneur nous demande de marcher, et on s'en doute, d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas une option, parce qu'on a vu que c'est un commandement. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Ça a été l'objet d'un message, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et ensuite, on a regardé, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et là, il est certain que le verbe est à l'impératif, c'est un commandement du Seigneur. Et ensuite, on a vu que toute la série, à partir de verset 19 jusqu'au verset 21, en fait, ce sont des participes présents, actifs pour les premiers et passifs pour le dernier. Je vous le lis dans la traduction Darby, ou plutôt littérale. Il suffit tout simplement de mettre des participes présents. Entretenant, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant, on peut dire aussi célébrant, de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ici, c'est plus intéressant car dans le grec, le participe présent nous montre plutôt un style de vie qui fait suite à le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas vous, mais souvent on pense que être rempli du Saint-Esprit, qui n'est pas être baptisé du Saint-Esprit, parce qu'être baptisé du Saint-Esprit, en Corinthiens 12, 13, c'est une fois pour toutes, le jour où on accepte le Seigneur, mais on a besoin d'être renouvelé, d'être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul utilise trois choses qui montrent quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Premièrement, on l'a vu dimanche dernier, c'est un cœur joyeux qui chante des cantiques. Comme j'ai dit, une fois qu'on est régénéré, il y a de la musique qui naît dans le cœur du croyant. Qui chante juste ou qui chante faux, le croyant chante à la louange et à la gloire de son Dieu. Il y a espoir pour tout le monde. Et comme j'ai dit dimanche dernier, mais Dieu a des oreilles qui font qu'il n'entend que des chants magnifiques. C'est merveilleux. Même si on chante faux, Dieu voit dans le cœur et il se réjouit parce que le cœur est au diapason, n'est-ce pas, de sa présence. Et ce matin, nous allons regarder le fait que Dieu nous invite à rendre grâce. Et un troisième message, ce sera la soumission, le fait que Dieu nous invite à nous soumettre les uns les autres. Alors Dieu nous invite à nous entretenir par toute espèce de chant et ainsi de le louer. On a vu ensemble avec qui les croyants chantent, c'est-à-dire les autres croyants. Comment les croyants doivent-ils chanter? Toutes sortes de cantiques. D'où le chant des croyants doit-il venir? Du cœur, c'est une histoire du cœur, en présence de Christ, mais aussi le cœur qui s'exprime. Et à qui les croyants doivent-ils chanter? Évidemment, c'est au Seigneur. Et nous continuons à regarder ensemble le fruit ou la conséquence de la plénitude de l'Esprit que Paul souligne ici. Les trois premières conséquences qu'il souligne, c'est donc le chant, un cœur joyeux, c'est bon signe parce que la Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la joie et la paix. Alors quand il y a la joie dans le cœur du croyant, c'est bon signe. Quand il chante, c'est bon signe. Et le deuxième aspect que Paul souligne, c'est le fait de rendre grâce et le fait de se soumettre. On pense peut-être que Paul aurait dû écrire bien d'autres choses concernant la plénitude du Saint-Esprit. Mais il commence par ces trois premières choses. Le chant, l'action de grâce, la soumission réciproque. Et il continue jusqu'à la fin du chapitre 6, en fait, de montrer tout ce que sont les conséquences de la vie remplie du Saint-Esprit en famille et en société. Et donc nous pouvons vraiment louer le Seigneur ce matin qui nous appelle à rendre grâce. Amen. Alors, la question de ce matin est celle-ci que le Seigneur nous pose. Est-ce que vraiment je rends grâce à Dieu? On va voir que ce n'est pas toujours facile de rendre grâce à Dieu. Est-ce que vraiment je rends grâce à Dieu? Et je rends grâce à Dieu pour toute chose. C'est ce que dit le texte ici. Il est écrit « Rendant continuellement grâce à Dieu le Père pour toute chose au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors rapidement, nous avons vu déjà à l'instant, à l'introduction, ce qu'est la marche du croyant pour faire un lien avec ce qui précédait, n'est-ce pas? Et nous avons vu que d'être rempli du Saint-Esprit, ben, en contraste, c'est ne pas s'enivrer de vin, mais au contraire, n'est-ce pas, chercher la plénitude du Saint-Esprit. Et donc les conséquences, c'est chanter, c'est rendre grâce, c'est se soumettre les uns les autres. Et ce matin, nous allons voir en fait à quoi ça consiste de rendre grâce au Seigneur. Donc quand, à qui, de quoi et comment. Et je vous laisse ici un petit peu le fil conducteur du message. Est-ce que votre vie, est-ce que ma vie est remplie d'actions de grâce? Un cœur joyeux est un remède pour le cœur. Et quand le cœur n'est plus joyeux ou ne rend plus grâce, il est comme en panne. Et je dirais que, pour commencer ce qu'est l'action de grâce, je dirais que c'est un péché de manquer de reconnaissance envers Dieu. Et même, je dirais que c'est un péché de manquer de reconnaissance envers les autres. La méreconnaissance, parfois, est tellement synonyme d'incrédulité. Certaines personnes ne sont pas reconnaissantes parce que tout leur est dû. Elles ont l'habitude de recevoir, toujours recevoir, et elles ne pensent pas qu'elles doivent donner. Leur plus grande vertu, c'est l'égoïsme, si on peut appeler ça vertu. Vous avez compris. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ces gens ont du mal à dire merci. Ça se trouve dans les milieux de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais savez-vous que ça se trouve aussi parmi les chrétiens qui pensent que tout est dû et qui finalement, dans leur cœur, se plaignent un petit peu peut-être de ce qu'ils n'ont pas et qui ne sont pas capables de dire merci déjà pour ce qu'ils ont. C'est un danger pour le chrétien de ne pas être reconnaissant. Et le deuxième aspect, c'est que ces personnes, peut-être, ne sont pas reconnaissantes parce qu'il semble qu'elles méritent, ils semblent mériter tout le bien qu'elles reçoivent. Autrement dit, voilà, j'ai ça, mais c'est normal. Et ça me fait penser à la parabole que le Seigneur Jésus nous a laissée au sujet d'un fermier extrêmement riche, n'est-ce pas, qui, en voyant l'abondance de ce qu'il possédait, a dit ceci: mon âme, tu as beaucoup de biens à réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Non seulement il n'a pas donné gloire à Dieu et reconnaissance à Dieu pour sa postérité passée, mais non plus il n'a pas regardé son avenir sous le regard de Dieu. Et ce qui est terrible, c'est que n'ayant pas reconnu Dieu comme étant la source de sa bénédiction, Dieu lui a dit ceci: insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il venait à perdre son âme? Une façon de montrer notre attachement au Seigneur Jésus, c'est de lui être reconnaissant. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi ce matin. Un cœur reconnaissant, c'est un cœur qui loue le Seigneur. Il y a un autre avertissement dans les Écritures, parce que quelque part, le Seigneur veut nous enseigner à comprendre que tout croyant devrait être caractérisé par un esprit de louange et de reconnaissance, en tout temps, en toute chose. Vous vous souvenez l'histoire des lépreux, ça se trouve, si vous voulez tourner dans vos Bibles, rapidement, en Luc chapitre 17. Ce qui est extraordinaire, c'est que, comme Jésus, verset 12, entrait dans un village, 10 lépreux vinrent en sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit: « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui, rendu grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, et dit: « Les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit: « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » La reconnaissance l'a mené à son salut dans le cas de ce lépreux. Mais les 9 autres lépreux ne sont pas venus rendre grâce à Jésus et n'ont pas donné gloire à Dieu. C'est incroyable cela. Jésus guérit et ces gens-là ne donnent pas gloire à Dieu. Mais celui qui rend gloire à Dieu, la Bible dit ici, en fait c'est un Samaritain, que finalement il glorifie ainsi Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tant qu'enfant de Dieu, il arrive souvent que nous avons plutôt tendance à prier, à intercéder, à demander des choses à Dieu. Alors que dans les psaumes, les psalmistes, n'est-ce pas souvent, qui ont écrit les psaumes, entrent dans la présence de Dieu avec action de grâce. Ils ne sont pas simplement là pour demander, mais ils sont là pour ouvrir leur cœur humblement et recevoir les grâces de Dieu et y rendre grâce. Un cœur qui demande a tendance à vouloir toujours recevoir, n'est-ce pas? Mais un cœur qui s'ouvre vers Dieu, il s'ouvre à la grâce, à l'abondance de la grâce, et il a des actions de grâce. Je vous lis quelques versets dans les psaumes qui montrent cela. Psaume 26, versets 6 et 7. « Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en actions de grâce et raconter toutes tes merveilles. » C'est incroyable, toutes les bénédictions que Dieu nous accorde. J'aime beaucoup le petit chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». On le chante souvent à la maison comme action de grâce avant les repas. Parce qu'on a tendance à oublier les moindres petites choses. Et pourtant, c'est Dieu qui est la source de toute bénédiction. « Je me rappelle avec effusion de cœur, dit David, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » Lorsque le peuple de Dieu est dans la fête, il a des actions de grâce envers Dieu. Et ça se voit, ça s'entend dans le culte, où chacun s'exprime en action de grâce, parce qu'il offre à Dieu un sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplit les vœux envers le Très-Haut, dit un autre psaume. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Rendre grâce à Dieu glorifie Dieu et lui donne toute la gloire. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous savons, tout ce que nous faisons, nous pouvons lui rendre grâce afin de lui donner toute la gloire et ainsi, ben, en quelque sorte, mettre de côté l'ego, l'orgueil, le moi qui veut se glorifier, parce qu'en fait, tout vient de Dieu, pour Dieu, et à lui soit seul la gloire au siècle des siècles. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec l'art. Les psaumes sont remplis d'actions de grâce. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin de lire les psaumes. parce que les psaumes nous amènent à la présence de Dieu et nous font aussi partager les luttes et les combats de ceux qui ont écrit les psaumes. Mais on s'identifie facilement aux psaumes parce que c'est ce qui fait notre vie. Mais nous avons aussi besoin d'apprendre, comme les psalmistes, à arriver dans la présence de Dieu pour rendre grâce à Dieu. Alors nous allons voir ce matin, quand le croyant devrait-il rendre grâce? À qui doit-il rendre grâce? De quoi doit-il rendre grâce? Et comment, étant rempli de l'Esprit, n'est-ce pas, il doit rendre grâce? Quand devons-nous rendre grâce? La Bible dit et précise et dit continuellement rendant, continuellement grâce à Dieu. Être continuellement reconnaissant, c'est reconnaître quelque part que Dieu a contrôle de ma vie, dans les bonnes choses comme dans les choses les plus dures. C'est reconnaître que tout ce qui fait notre vie est sous la main de la souveraineté de Dieu. Et ne pas être reconnaissant, c'est ne pas croire que Dieu est au contrôle de ma vie. Dieu est au contrôle de ma vie, Christ est souverain dans ma vie, même si je suis dans la plénitude du Saint-Esprit et si je traverse des choses difficiles. La Bible dit, Colossiens chapitre 2, verset 7, « Abondez en actions de grâce ». Il me vient à l'esprit une anecdote, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Corinne ten Boom, « Dieu en enfer », c'est deux sœurs, n'est-ce pas, hollandaises, qui ont été mises dans un camp de concentration à cause du fait qu'elles gardaient et protégeaient des juifs chez elles. Et une des deux est morte d'ailleurs. Et puis à un moment donné, il y avait des poux à un endroit où on leur demandait d'aller. Et une des sœurs disait, oh c'est terrible tous ces poux, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais savez-vous quoi? C'était le seul endroit, là où elles étaient, où les gardiens ne venaient pas et où elles pouvaient prier. Et l'autre sœur a dit, on va rendre grâce au Seigneur pour les poux, parce que c'est le seul endroit où on peut prier en toute liberté. Ça prend une sacrée force de foi, n'est-ce pas? Rendre grâce en toute chose. La Bible dit abonder en actions de grâce. Je me souviens avoir lu un livre qui s'appelle La puissance de la louange. Et quand je l'ai lu la première fois, désirant lire des livres sur le sujet de la prière et la louange et l'adoration, ce livre mentionnait qu'on devait louer le Seigneur en toute occasion, toute circonstance. Et je trouvais ça assez difficile lorsque j'ai lu l'anecdote suivante des parents chrétiens dont la fille était partie vivre dans une boîte de nuit et faire toutes sortes de choses impures, et ils ont loué quand même le Seigneur de la situation de leur fille. Savez-vous quoi? Leurs prières ont été exaucées, cette jeune fille s'est convertie, et cette jeune fille est sortie de ses agissements, n'est-ce pas, nocturnes, par la puissance de la louange. Il y a une puissance lorsqu'on rend gloire à Dieu. Reconnaissons dans nos vies, frères et sœurs, qu'en rendant grâce à Dieu, nous manifestons notre foi. Mais parfois, et nous donnons gloire à Dieu. Mais parfois, dans l'incrédulité, nous rendons gloire à l'homme et même au diable. Une façon de rendre gloire à Dieu, c'est de lui rendre les actions de grâce. De lui faire des actions de grâce et le remercier. Quelqu'un a dit, et je vous partage cela, il y a trois niveaux de reconnaissance. Vous êtes toujours avec moi ? Il y a trois niveaux de reconnaissance. Première reconnaissance, c'est pour les bénédictions reçues. Il est tellement plus facile de louer le Seigneur quand tout va bien. Amen. J'espère que tout va bien dans votre vie. Au moins quelque chose va bien dans votre vie ce matin. Je l'espère de tout mon cœur, n'est-ce pas? Et vous pouvez rendre grâce de tout votre cœur parce que Dieu vous bénit. Il vous a béni dans votre vie. Il vous a peut-être trouvé un travail. Il vous a donné un cher époux, une chère épouse, des enfants, il vous a béni matériellement, il pourvoit vos besoins, vous avez un toit, vous avez la nourriture, mais c'est extraordinaire cela, parce que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas de quoi manger, qui n'ont même pas de quoi se protéger. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut rendre grâce à Dieu. Peut-être même vous a-t-il guéri de votre maladie un jour, et vous l'avez loué de tout votre cœur. Il a même pourvu à tous vos besoins, pour payer toutes les factures. C'est bien cela, quand on n'a plus les soucis matériels dans la vie. Et là, vous avez rendu grâce à Dieu. Ou alors, il vous a délivré du péché dans un domaine de votre vie, du diable, d'un esprit. Et où l'Église rend grâce à Dieu parce qu'elle a connu une victoire, n'est-ce pas, dans sa vie d'Église. Et toute l'Église rend gloire à Dieu. Je pense à Moïse, n'est-ce pas, face à la mer rouge. Lorsque d'un côté il y avait les pharaons n'est-ce pas, avec ses chars, le pharaon avec ses chars, ses soldats qui faisaient pression sur le peuple d'Israël qui se retrouvait face à la mer. Et Moïse, et j'ai envie de vous le lire ce matin, ça se trouve en Exode chapitre 15, n'est-ce pas? Et Exode chapitre 15, Moïse dit au peuple, répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et c'est extraordinaire comment Dieu a délivré, n'est-ce pas, Israël. Il a fait engloutir tous ses ennemis. Et ils ont disparu. C'est la victoire, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment l'illustration de la victoire sur l'ennemi et tous les adversaires que nous avons. Et même, je dirais, les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, nous avons la victoire en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Et la Bible dit ceci. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne du feu de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Il y a vraiment une joie dans la victoire, une reconnaissance de toutes les bénédictions du Seigneur, notamment de la victoire qu'il nous donne. Et voilà que donc... Moïse commence ce merveilleux cantique, on n'a pas le temps de le regarder au chapitre 15. Il dit « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. » Et lisez tout le chapitre 15, c'est extraordinaire. Mais pourtant, quand ils sont entrés après dans le désert, ils n'ont pas toujours rendu grâce à Dieu, n'est-ce pas? Malgré cette grande délivrance, c'est la même chose dans notre vie. Nous entrons dans le combat spirituel, hein, les promesses de Dieu sur terre. Je ne parle pas qu'au ciel, c'est acquis une fois que nous avons Jésus. Mais la terre promise, c'est la victoire dans nos vies de Jésus sur le terrain de nos cœurs qui ont besoin d'avoir la victoire. Et le monde, n'est-ce pas? Et nous avons tout pleinement en Christ. Mais parfois, nous oublions de rendre grâce à Dieu qui nous a sauvés et délivrés de la puissance de Satan, du péché et du monde. Mais c'est facile à louer le Seigneur. Lorsqu'il intervient dans nos vies. Et ce serait malheureux de ne pas rendre grâce à Dieu lorsqu'il intervient dans nos vies, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Souriez ce matin un petit peu, c'est bien. Si vous rendez grâce à Dieu parce que Dieu vous a délivré, eh bien c'est merveilleux. Mais peut-être c'est un premier niveau de reconnaissance. Un deuxième niveau, c'est la reconnaissance dans l'espérance d'une bénédiction. C'est de voir par les yeux de la foi ce que nous n'avons pas encore. C'est lié certainement à notre espérance. La reconnaissance au premier niveau suit les faits. On voit Dieu agir, on rend grâce à Dieu. La deuxième, c'est qu'elle rend grâce à Dieu avant même qu'il ait agi. Ce sont des yeux de la foi. C'est quelque chose qui demande peut-être plus de foi, de maturité spirituelle. C'est par exemple l'exemple du Seigneur Jésus. Je vous le cite dans les Écritures. En Jean chapitre 11, avant que Lazare, excusez, soit ressuscité, il est écrit, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus rend grâce au Père, déjà, de ce qu'il va ressusciter Lazare, avant que Lazare ne soit ressuscité. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qu'il m'a envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et Lazare est sorti, ressuscité. C'est merveilleux cela. Mais Jésus savait dans son cœur déjà, il avait l'assurance que Dieu allait l'exaucer, et il a rendu grâce à Dieu pour l'exaucement de sa prière à l'avance. Il y a des domaines dans notre vie que nous traversons, où nous pouvons anticiper par la foi la délivrance, où nous pouvons anticiper par la foi l'intervention de Dieu, parce que la Bible dit « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Mais que penser lorsque nous faisons face, par exemple, au deuil, à la séparation d'un être cher? Comment est-ce que nous pouvons réagir? L'apôtre Paul, face à une épreuve dont on ne connaît pas toujours exactement le contenu, a dit ceci « Ma grâce, et c'est Dieu qui l'a enseigné à Paul, ma grâce te suffit. » Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quels sont les candidats ici à connaître la faiblesse? Qui a envie d'être faible? Personne. C'est tellement humiliant d'être rendu faible, incapable, mentalement, physiquement, psychologiquement. Personne n'a envie de vivre cela. Et pourtant, Paul l'a vécu. Il a dit, il a compris cette leçon terrible de la part du Seigneur. Ma grâce te suffit. Car c'est quand on s'abandonne entièrement à Dieu qu'il intervient. Là même, humainement parlant, c'est impossible. Dieu fait toute la différence. Car tout est possible à Dieu. Nous avons assisté quelques-uns ici dans notre église, n'est-ce pas, à l'enterrement de notre chère sœur, Jeannette Abadir. Et nous avons connu, moi, mon épouse et moi, ce couple depuis presque 40 ans. Et Daniel et Lydie depuis certainement encore plus longtemps. Et c'est un couple qui a montré beaucoup d'amour, je pense, dans leur vie de couple, leur vie de famille, leur vie d'église. Et je voyais Sobi, le mari de Jeannette, à l'enterrement, brisé avec ses deux filles que nous aimons aussi, Sylvia et Caroline. Et quelque part, on voyait quand même, malgré la tristesse, la douleur, une espérance dans leur cœur. Ça, c'est Christ qui le fait en nous. Nous ne pouvons pas le gérer nous-mêmes. Mais justement, c'est la capacité d'espérer. Évidemment, nous sommes, une fois qu'on est sauvé, on a l'assurance de la vie éternelle et on espère. Déjà, on vit en espérance dans le sens que nos yeux sont fixés sur le ciel et on sait que mourir, c'est le meilleur. Comme disait l'apôtre Paul, mourir, c'est un gain et c'est le meilleur de loin. Mais il n'empêche pas, quand on perd un être cher, même si on a l'espérance de le retrouver tôt ou tard, plus tard, la consolation doit venir dans le cœur et c'est une grâce. Et c'est une grâce à ce moment-là de pouvoir rendre grâce dans la plus grande épreuve qu'on peut avoir dans sa vie, de rendre grâce à Dieu malgré cette épreuve-là, parce que Dieu peut nous donner cette grâce-là. Donc c'est une capacité de rendre grâce par anticipation de l'avenir. Et pour retomber dans un exemple que quelqu'un a vécu sur terre, n'est-ce pas ? Ça se trouve en 2 Chroniques, si vous tournez en 2 Chroniques. J'aime beaucoup l'histoire de Josaphat, cet homme de foi, ce roi, n'est-ce pas ? En 2 Chroniques, chapitre 20, il y a l'invasion de Juda par les Moabites, les Ammonites et les Édomites. Et là, c'est une multitude nombreuse qui s'avance face à Israël. Il est évident que Israël ne pourra jamais vaincre dans ses propres forces et capacités, parce qu'une armée, ayant une armée limitée par rapport à cette multitude en face, c'est évident qu'Israël va être écrasé par l'ennemi. Et qu'est-ce que fait Josaphat le roi ? Au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Il faut parfois qu'on arrive, n'est-ce pas, au pied du mur dans nos vies, face à l'adversité ou face à l'adversaire, pour chercher Dieu de tout notre cœur. Et la leçon ici, c'est que bien sûr, on n'a pas le temps de méditer et de regarder ensemble toute la prière de Josaphat, verset 3 jusqu'au verset 12. Mais Josaphat a un regard vers Dieu. Il s'appuie sur Dieu. Il sait qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, ses promesses, son alliance. Il s'appuie sur Dieu. Au verset 14, la réponse vient au travers de... Ainsi, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'Assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, donc c'est un prophète, et qui finalement annonce qu'Israël va avoir la victoire. Et ce qui est merveilleux, et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, c'est que si vous regardez à partir de verset 20, c'est les uns les autres, et Josaphat se présente, il dit « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Il suscite la foi. Il n'y a pas la victoire encore. La multitude est là, l'adversaire est là. Ils ont juste la promesse et l'assurance de la délivrance de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils font ? C'est ce que je veux souligner pour le sujet ce matin, la reconnaissance envers Dieu et l'action de grâce. Puis d'accord avec le peuple, ils nomma des chantres. Vous vous rendez compte ? Face à l'adversité, à ces milliers de soldats, qu'est-ce qu'il fait ? Il convoque une chorale et des musiciens. Vous avez vu ça déjà, vous, dans l'histoire malheureusement des guerres, des nations, un peuple qui va avoir la victoire parce qu'il convoque des musiciens et des instrumentistes. Et qu'est-ce qu'ils font pour, il dit, qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon. Ça, c'est le premier pas de la foi. Des fois, Dieu nous amène à un endroit et nous avons foi en lui. Mais tant que nous ne faisons pas un premier pas de la foi, l'Éternel n'intervient pas. À partir du moment où on fait un premier pas, Dieu intervient. Et ce premier pas, ils l'ont fait par la louange. Alors je vous invite, bien-aimés, s'il y a quelque chose dans votre vie, un impasse. Tout à l'heure, je vous ai demandé, certainement, Dieu vous bénit quelque part dans votre vie. Là, il y a eu quelques sourires, quand même, n'est-ce pas? Heureusement que Dieu nous bénit. Mais il y a certainement aussi, dans votre vie, parfois, des impasses. Oui? Ça ne vous arrive pas d'être coincé en voiture? Ah mais je me suis trompé, je n'ai pas vu le panneau, il faut faire demi-tour. Et vraiment, des fois, il y a une petite rue pas loin d'ici, à la gare, là, quand vous prenez ce chemin, c'est une impasse, mais en plus, la rue est tellement étroite que pour faire demi-tour, ça devient vraiment un casse-tête. Et c'est parfois ce qui nous arrive dans la vie. Eh bien, la solution, le remède de Dieu, c'est louer le Seigneur par la foi. Ce n'est pas de la présomption, parce que nos yeux à ce moment-là sont fixés sur le Seigneur et nous louons le Seigneur. Et quand nous faisons ce premier pas de la foi qui honore Dieu, qui il est et qu'est-ce qu'il va faire, Dieu bouge. Ayons foi, frères et sœurs, et commençons à bouger par l'action de grâce dans nos vies, lorsque nous sommes, n'est-ce pas, au pied du mur et nous ne pouvons plus avancer. Et ça peut nous arriver. Le troisième aspect de la reconnaissance, c'est peut-être l'aspect le plus dur. On a vu l'aspect de reconnaissance après la bénédiction, l'aspect de l'anticipation, n'est-ce pas, de l'intervention de Dieu. Et puis il y a l'action de grâce au sein de l'épreuve, du combat, de la souffrance. Et on trouve ça dans la Bible au travers d'hommes de Dieu. Et la Bible nous donne plusieurs exemples. Alors je vous lis le premier. En Daniel, chapitre 6, et verset 10, il est écrit ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Malgré le décret qui décrétait que tous ceux qui adoreraient autre que la statue de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, seraient exterminé. Et qu'est-ce qu'il fait, Daniel ? Il adore. Il adore le Seigneur. En fait, non, ce n'est pas la statue, mais tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme accepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions, c'est Darius. Et finalement, Daniel, il s'est mis à prier, à louer le Seigneur comme d'habitude, face à une mise à mort éventuelle. Donc face à l'adversité et au travers de l'adversité, Daniel a loué le Seigneur. Comme j'ai dit, c'est peut-être plus facile de louer le Seigneur quand on est conscient de ses bénédictions, mais le louer quand ça va mal, et peut-être face à la mort, ça c'est une autre dimension, n'est-ce pas ? Jonas, même Jonas, on a besoin d'apprendre quelque chose vis-à-vis de l'action de grâce dans la vie de Jonas. Vous allez dire, comment ça, Jonas, qui a désobéi, que Dieu a mis dans un poisson ? Mais Jonas a dit ceci au sein du poisson. Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Il était encore dans le poisson. Et Dieu, parce que Jonas s'est repenti un peu malgré lui, n'est-ce pas ? Eh bien, Dieu lui a un peu tordu le bras pour pas le dire, pour pas dire qu'il l'a mis dans un poisson, n'est-ce pas, dont le confort était relatif. Hein. Eh bien, même Jonas a compris la puissance de la louange. Il s'est repenti. Il a anticipé cela en disant « Je t'offrirai des sacrifices » avec un cri, l'action de grâce. Il a retrouvé vie en Dieu. Parce qu'il s'était repenti, il a retrouvé l'action de grâce, le désir de rendre grâce à Dieu, parce qu'enfin il s'est soumis à Dieu. Et que penser de Pierre et des apôtres ? Je vous lis le texte en Actes 5, 41. « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Et nous nous plaignons tellement, n'est-ce pas ? Il fait chaud. Il fait chaud, mais qu'est-ce qui fait mauvais ? Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais là ? Baisse la température. Moi, je pense que je me plains plus de chaleur. Vous savez pourquoi ? J'ai eu tellement froid au Québec. Moins 40 degrés. J'ai su ce que c'était que le froid. le fret, comme ils appellent là-bas. Et donc, quand il fait si froid et quand il commence à faire beau, peu importe la température, vous vous régalez, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est tous les Québécois qui rêvent d'aller en Floride pendant l'hiver, tellement il fait beau là-bas, n'est-ce pas? Même s'il gris, c'est pas grave, mais au moins il fait chaud. Comprenez, parfois nous nous plaignons, c'est ça que je veux dire. La moindre petite chose, nous sommes des enfants gâtés, pour ne pas dire pourris, et nous ne savons plus reconnaître les bienfaits de Dieu dans les moindres choses. Alors quand il arrive une réelle épreuve, mais c'est la catastrophe. On ne prie plus, on ne lit plus sa Bible, on ne vient plus à l'église éventuellement. On boude devant Dieu, on devient bouddhiste, hein, alors que Dieu nous demande d'être joyeux dans le Seigneur. Vous savez, on a tellement de choses à apprendre. Regardez ce que disait Paul en Philippiens. Allez, on y va en Philippiens. Tournez dans vos Bibles. Philippiens, et chapitre 1, versets 3 à 6. Qu'est-ce que disait Paul? Paul est en prison. Paul est celui qui est victime. Paul est celui qui subit la persécution. Paul est en prison. Et qu'est-ce qu'il fait en prison? Il dit ceci: je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Pasteur Von Brandt, qui est un pasteur, un athée converti en Roumanie par une communiste, ancien communiste qui s'était converti, qui a demandé au Seigneur d'amener quelqu'un au Seigneur, lui-même étant communiste a été amené au Seigneur. Il est resté 14 ans en prison, et dans une émission de Jacques Chancel à la radio, Radioscopie, il disait: la plus grande crainte que j'avais en sortant de prison, c'était de perdre la joie du Seigneur. Il avait connu une telle joie en prison malgré la persécution qu'il avait peur de perdre cette communion intime avec Dieu. Est-ce que nous chérissons le Seigneur au point que même la persécution et les choses qui nous entourent, n'est-ce pas, perdent leur puissance parce qu'en communion avec Dieu? Et Paul, il commence son épître en disant: oh, mes frères et sœurs, priez pour moi, je suis en prison, la vie est dure, il fait froid, je ne mange pas assez. Priez s'il vous plaît, moi qui vous ai servi, écoutez, commencez à faire quelque chose pour moi là. Il n'est pas en train de dire ça, il dit: je rends grâce à Dieu pour vous, de toute la joie qu'il me donne. Paul a transformé sa circonstance en louange envers Dieu, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'aurait jamais écrit l'épître aux Philippiens et d'autres épîtres alors qu'il était en prison. Il a transformé, parce que c'est Dieu seul qui peut le faire, le mal en bien, parce qu'il a eu la perspective de Dieu par rapport à sa situation. Et c'est souvent ce qui nous arrive lorsque nous perdons la vue de Dieu dans nos circonstances, nous ne pouvons plus rendre grâce à Dieu. Mais si nous voyons les choses comme Dieu les voit, à ce moment-là, nous pouvons même rendre grâce. Il y a une puissance dans la louange, bien-aimés. J'espère que vous allez retenir cela. Il y a une puissance dans la louange à louer le Seigneur. À louer le Seigneur en toutes choses. Premier niveau, être reconnaissant pour toutes ses bénédictions. Deuxième niveau, qui demande plus de foi et de maturité spirituelle, anticiper la bénédiction et rendre grâce par l'assurance que Dieu va exaucer ou agir. Et la troisième reconnaissance, c'est la reconnaissance malgré les épreuves. Est-ce que nous sommes de cela? Est-ce que nous pouvons vraiment louer le Seigneur de cette façon? Alors, je dois aller un petit peu plus vite, excusez. Rendant continuellement grâce à Dieu le Père. C'est lui qui est la source de tout don parfait, de toute grâce excellente. C'est lui qui nous accorde les cadeaux. Le Père nous a donné son Fils et nous pouvons lui rendre grâce pour son Fils. C'est de lui que viennent toutes choses et nous pouvons le remercier. Et même, je dirais une chose, je vais écourter ce point, mais on peut remercier Dieu, notre Père, de tout ce que nous recevons des autres. Parce que cela vient de Dieu. Vous avez peut-être un père, une mère qui vous aime et qui fait tout son possible pour vous aider dans différents domaines. Mais encore là, c'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu permet au travers de ceux qui vous entourent. Et c'est pour ça que nous pouvons être reconnaissants et dire merci à ceux qui nous font du bien. Et les voir comme des moyens ou des acteurs de la grâce de Dieu dans nos vies. Vous vous souvenez quand Paul est obligé de secouer un peu, n'est-ce pas, les gens de Jérusalem pour apporter des offrandes à Jérusalem. À Macédoine, il y a une famine, etc. Et les gens de Macédoine, eux, ils ont tout donné. Et Paul est en train de dire, mais quand vous donnez, ça pousse à l'action de grâce. C'est vrai que quand on voit les autres agir dans le Seigneur, on est dans la joie parce qu'on voit Dieu agir dans leur vie et on pousse des actions de grâce envers Dieu. La Bible dit « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Si nous pouvions remercier le Seigneur pour chaque bienfait qu'il nous accorde. Vous avez un travail, mais remerciez le Seigneur, même si ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Vous êtes en santé, mais remerciez le Seigneur, parce que parfois on peut être malade. Et même si votre problème, votre santé a parfois des difficultés, mais remerciez-le quand même pour tout ce que vous pouvez faire malgré tout, et ainsi de suite. Nous pouvons tout mettre entre les mains de Dieu le Père et le remercier pour tout ce qu'il nous donne. La Bible dit à un moment donné, contentez-vous de ce que vous avez. Le contentement et la joie et la plénitude de la foi qui fait qu'on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous a déjà donné, sans regarder à tout ce qu'on pourrait avoir ou désirer encore. Et c'est vrai dans la vie chrétienne. Nous pouvons être heureux pour ce qu'il nous donne. Nous avons un Père céleste qui est prêt à nous donner des cadeaux. Retenons cela. C'est un Père qui fait des dons à ses enfants. Les petits-enfants croient au Père Noël, c'est vrai ? Mais nous, nous croyons au Père céleste qui est plein de cadeaux depuis le ciel pour nous, ses enfants, parce qu'il dit, il nous a placés dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Et nous avons tout pleinement en lui. Gardons ces richesses en nous. De quoi devons-nous rendre grâce continuellement à Dieu le Père? Pour toutes choses. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Une façon de marcher dans la sagesse se trouve en verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Or, Paul, en Thessaloniciens, nous le dit, quelle est la volonté du Seigneur. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous pouvons continuellement remercier le Seigneur pour toutes choses. Et même lorsque nous pouvons passer par une épreuve terrible comme la perte de notre chair, pensons à ce qu'a dit Job et comprenons bien sûr dans quel contexte il a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » S'il y a une chose que je peux redouter dans ma vie, c'est qu'au sein de l'épreuve, je ne puisse plus louer le Seigneur et d'accuser Dieu. C'est le rôle de l'accusateur d'accuser Dieu. Mais au sein de l'épreuve, Dieu est là. Et nous pouvons lui rendre grâce en toutes choses, même si nous devons traverser par une épreuve terrible, comme, n'est-ce pas, Sobi et ses filles sont passées, parce que Dieu est au contrôle. Dieu sait. Nous pouvons rendre grâce, frères et sœurs, d'abord pour Dieu lui-même. Amen. Pour qui est Dieu? Et le dimanche matin, mais soyons nombreux à louer le Seigneur. Je vous confesse que parfois, j'ai un petit peu mal au cœur, car je trouve qu'on ne loue pas assez le Seigneur. C'est une exhortation, comprenez bien. Mais frères et sœurs, louez le Seigneur. Louons le Seigneur ensemble. On est appelés à louer le Seigneur ensemble, à lui donner toute la louange et la reconnaissance de ce qu'il fait pour nous. Louons-le pour sa bonté, son amour, sa grâce, pour le salut. Est-ce qu'on peut se taire devant Dieu d'être sauvé, d'être en route pour le ciel, comme un don gratuit? Si vous êtes en route pour le ciel à l'instant, et vous avez l'assurance du pardon de vos péchés, vous savez que Dieu vous a aimé au point de donner sa vie pour que vous ayez la vie éternelle, mais vous ne pouvez pas ne pas louer le Seigneur. Parce que d'être sauvé, c'est extraordinaire d'être en route pour le ciel. C'est non seulement d'échapper à l'enfer, qui est une réalité parce que la Bible en parle, et le dit, et Jésus en a parlé plus que du ciel, mais c'est la joie de penser qu'un jour je serai avec le Seigneur pour toujours avec lui. C'est merveilleux cela. Il m'aime comme je suis. Puis il avait du boulot de m'aimer comme je suis, non? Et il l'a fait, parce qu'il a un amour inconditionnel et parfait. Je vais rentrer au ciel, non pas sur la base de qui je suis, ce que je fais, mais sur la base de son amour à lui. Et c'est ma sécurité. Vous savez, celui qui rend grâce, c'est celui qui est humble. C'est dans la mesure où on voit les bienfaits de Dieu, même dans les plus petites choses. Récemment, nous avons reçu un jeune frère, je dirais jeune frère dans le Seigneur, qui a passé la nuit chez nous et qui a pris le petit déjeuner avec nous un matin de bonne heure. Il a prié, je dis, bon, veux-tu rendre grâce au Seigneur? Puis il a loué le Seigneur. Pourtant, son petit déjeuner, il l'a voulu un peu frugal. Il a remercié le Seigneur pour la douceur du sucre, pour le bon goût de la confiture. Et je me suis dit, waouh, ça m'a fait plaisir d'entendre cela. Dans les plus petites choses, de rendre grâce. C'est merveilleux, cela. Hein? Bon. Comment devons-nous rendre grâce? Je termine avec ça. Au nom de notre Seigneur Jésus. Pourquoi? pour ce qu'il est. Le Seigneur est mort à la croix pour nous, pour ce qu'il fait dans notre vie. En fait, de rendre grâce en toute chose, ce serait impossible sans la présence de Jésus-Christ en nous. Vous êtes d'accord? C'est une folie quand un croyant traverse une épreuve et puis rend grâce à Dieu pour cela. Mais aux yeux du monde, c'est complètement une folie, à moins que Christ le fasse en lui. Parce qu'une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'on comprend cela, on chante parce que rempli du Saint-Esprit. On rend grâce. C'est Christ au travers de nous qui chante. C'est Christ au travers de nous qui rend grâce à Dieu. Et c'est Christ qui nous donne des cœurs humbles pour nous soumettre les uns vers les autres. Non seulement nous pouvons, en son nom, sa présence, sa souveraineté, sa puissance, et nous pouvons nous cacher en lui parce que son Esprit Saint habite en nous, réside en nous. Nous avons tout pleinement en lui. Je puis tout, disait Paul, par celui qui me fortifie. Lui-même Jésus, il a toujours rendu grâce. Il a rendu grâce au Père lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons, nourri la foule. Il a rendu grâce à Dieu lorsque, avant, n'est-ce pas, qu'il ressuscite Lazare. Et puis il a rendu grâce à Dieu lors du dernier repas qu'il a partagé avec ses disciples. Malgré le temps de ce repas qui était juste quelques heures avant sa crucifixion, il a rendu grâce à Dieu le Père. Rendre grâce chasse l'amertume, chasse l'aigreur de nos vies, chasse l'incrédulité, l'esprit négatif, l'esprit revanchard, l'esprit centré sur soi. Je vais terminer avec ce qu'un commentateur a dit. Je vous le lis. On a ridiculisé Jésus. On l'a méprisé et rejeté. On a craché sur lui, on l'a blasphémé, battu et finalement crucifié. Pourtant, à cause de sa grande humilité, il a rendu grâce pour toute chose. Il méritait la gloire, mais reçut l'humiliation. L'amour, mais reçut la haine. L'honneur, mais on l'a déshonoré. Il méritait la louange, mais on l'a méprisé. La richesse, mais il fut pauvre. La sainteté, mais il a été péché pour nous, fait péché pour nous. Pourtant, il n'a jamais perdu sa reconnaissance envers son Père parce qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Lorsque nous nous humilions et que nous ouvrons notre cœur, cette humilité favorise l'action de grâce dans notre vie parce qu'elle reçoit la grâce de Dieu. Lorsque nos cœurs s'endurcissent et restent orgueilleux et durs, alors nous ne pouvons pas ouvrir les mains vers la grâce. Nous ne pouvons pas la recevoir et nous ne pouvons pas rendre grâce à Dieu. En toute chose, à Dieu le Père, n'est-ce pas, et au nom du Seigneur Jésus. Alors un défi pour terminer, un défi personnel, je vous laisse lire toutes ces questions que j'ai posées ici. Êtes-vous un croyant rempli du Saint-Esprit? Remerciez-vous Dieu pour toutes choses. Êtes-vous reconnaissant envers Dieu, c'est ça? Pour ce qu'il est, ce qu'il a fait dans votre vie et ce qu'il permet dans votre vie aujourd'hui. Êtes-vous reconnaissant envers ceux qui vous font du bien d'une manière ou d'une autre? Savez-vous dire merci dans les petites choses comme dans les grandes choses? Êtes-vous comme les 9 lépreux ou bien comme le seul lépreux venu remercier le Seigneur? Alors le défi pour nous, c'est de changer peut-être d'attitude et d'avoir un nouveau style de vie. Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce verset que nous venons de voir. Rendant continuellement, c'est sans cesse, grâce pour toute chose, même les plus difficiles, à Dieu le Père, de qui est la source de toute bénédiction et de cadeaux et de bienfaits, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est possible en sa présence, parce que Christ le fait en nous. Et nous avons une merveilleuse promesse qu'on trouve dans les psaumes et j'ai trouvé que ça nous ferait du bien de le lire ce matin. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, notamment de rendre grâce à Dieu, je ferai voir le salut de Dieu, toutes sortes de délivrances et de bénédictions. Celui qui offre pour sacrifice des actions de Dieu me glorifie. Pensons à glorifier le Seigneur. Pensons que la façon avec laquelle on réagit dans nos vies, dans les 3 niveaux qu'on a vus de reconnaissance, nous apportons la gloire de Dieu. Et par cette gloire dans nos vies, nous faisons du bien aux autres. Nous sommes un témoignage de la personne de Dieu dans nos vies. Même si ça coûte, même s'il y a un prix à payer, à mourir à soi-même. Mais rendons grâce continuellement à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je voudrais inviter Samuel, c'est bien terminé dans la prière. Merci.